Si on imagine un instant, l'ouverture d'un film majestueux. La caméra balaye l'univers tout entier. On voit la création des étoiles, la formation des océans primitifs, puis l'aube de l'humanité dans un jardin luxuriant.
Ouais, un vrai plan large, quoi.
C'est ça. Et puis, le rythme s'accélère. Des civilisations entières s'élèvent, se corrompent. On a un déluge apocalyptique qui engloutit le monde.
La tour de Babel, tout ça.
Exactement. Des empires bâtissent des tours qui défilent au ciel avant de s'effondrer et de s'éparpiller. Et là, soudainement, au lieu de continuer sur cette échelle cosmique hyper vertigineuse, la caméra fait un zoom arrière brutal.
Mmh.
Elle traverse le globe, elle survole le Moyen-Orient et elle s'arrête net. Dans le salon d'un seul homme, au milieu de nulle part. Et le film décide de rester là, dans l'intimité de cette tente, pour les deux prochaines heures.
C'est super bien résumé, parce que c'est exactement l'effet que ça fait quand on lit la transition entre le 11e et le 12e chapitre de la Genèse. On assiste à l'un des coups de frein narratifs les plus spectaculaires de toute la littérature antique.
Et c'est ce qui rend cette transition si fascinante, tu vois. On passe d'un récit universel qui traite de l'humanité entière et de ses échecs répétés à une histoire hyper spécifique, l'histoire d'une seule famille. D'ailleurs, je vois bien que tes anciennes cartes géographiques du Moyen-Orient, là, et les arbres généalogiques sur tes parchemins, ça plante parfaitement le décor de notre plongée d'aujourd'hui.
Ah oui, je me suis dit que ça aiderait à visualiser.
C'est génial. Et pour guider notre analyse aujourd'hui, on va s'appuyer sur les travaux du docteur Kenneth Matthews. Il souligne dans ses recherches sur la Genèse que cet homme, Abraham, il est présenté ni plus ni moins comme l'antidote ultime au problème du péché et de la rupture apparue dans l'Éden.
Tout à fait.
Bon, décortiquons tout ça. Qu'est-ce qui justifie, selon nos sources, de faire reposer le remède à un chaos totalement cosmique sur les épaules d'une petite famille nomade ?
Alors, pour comprendre ce choix, il faut d'abord saisir l'ampleur de ce changement de rythme. Comme tu le disais, les 11 premiers chapitres de la Genèse, ça couvre des millénaires.
Des milliers d'années, ouais.
La création, la chute, le meurtre d'Abel, le déluge. C'est une histoire qui est marquée par des fractures de plus en plus graves entre l'humanité et le Créateur. Le texte avance à une vitesse folle et soudain, paf ! À partir de Genèse 11, verset 27, le récit ralentit de manière presque inconfortable.
Inconfortable comment ?
Le texte va consacrer 14 chapitres uniquement à la vie d'Abraham, à sa femme, ses neveux, ses doutes et ses discussions très personnelles avec Dieu.
C'est un peu comme si, un manuel d'histoire mondiale décidait soudainement de consacrer la moitié de ses pages au journal intime d'un paysan mésopotamien.
Ouais, c'est exactement ça.
Mais il y a un truc qui me frappe en lisant le texte. Ce fameux zoom, il commence même pas par Abraham en fait. Le texte dit pas « Et maintenant, voici l'histoire d'Abraham le sauveur ».
Non, ça commence par une généalogie.
Voilà. Ça dit « Voici la postérité de Terach, le père d'Abraham ». Et il le relie à la lignée de Sem. Pourquoi faire tout ce détour par le père et les ancêtres au lieu de, de passer direct à l'action ?
Parce que l'auteur biblique, il fait jamais rien au hasard. Cette formule « Voici la postérité de », elle fonctionne comme une charnière architecturale dans toute la Genèse. Faut se rappeler de qui est Sem.
L'un des fils de Noé.
Exactement. Celui par qui l'espoir d'une humanité restaurée devait passer, après tout le traumatisme du déluge. En nommant Terach comme le point culminant de cette lignée, le texte crée un pont. Terach, c'est le lien entre ce passé lourd de sens et l'avenir qui sera incarné par son fils Abraham.
D'accord, donc c'est pas juste du remplissage.
Pas du tout. Si l'on relie cela au contexte plus large, ce ralentissement magistral pose les bases d'un modèle. L'auteur nous dit en gros, prêtez attention à cette famille, parce que la manière dont Dieu va interagir avec cet homme, ça va devenir la matrice pour tout le reste.
La matrice pour Isaac, Jacob, Joseph.
Ouais, et même toute l'histoire d'Israël. Une fois qu'on a compris les dynamiques de confiance, d'échec et de promesses avec Abraham, on a la clé de lecture pour la suite.
Donc on zoome sur Terach, puis sur Abraham, pour établir un précédent. Et le moteur de cette relation, ce qui fait vraiment avancer ce récit lent, c'est la notion de promesse. Et là-dessus, j'ai beaucoup aimé l'analogie que le docteur Matthews utilise pour expliquer comment ces promesses structurent le texte.
Ah oui, l'analogie du pull en laine.
Oui.
C'est une image super éclairante pour aborder des textes antiques aussi denses. Imaginons un pull multicolore. Le thème, c'est la couleur dominante, la laine principale qui donne son identité aux vêtements.
Ok.
Les motifs, en revanche, ce sont les petites touches d'autres couleurs, les fils qui s'entrelacent pour rajouter de la beauté, de la tension ou de la complexité. Mais ils restent toujours subordonnés à la couleur de fond.
Et dans cette vaste section de la Genèse, la couleur dominante, le fil conducteur, ce sont les promesses divines.
C'est ça, le thème central.
Mais des promesses qui ont une particularité un peu troublante. Elles sont toujours partiellement accomplies ou alors remises à plus tard. Et quand on regarde de près ces promesses, on remarque qu'elles s'articulent autour de trois piliers fondamentaux.
Lesquels ?
Eh bien, on a la promesse d'une terre, la promesse d'une progéniture nombreuse et la promesse d'une bénédiction. Et en lisant ça, j'ai eu un énorme sentiment de déjà-vu.
Ah bon ?
Ouais. Une terre spécifique, l'ordre d'avoir une grande descendance et une bénédiction relationnelle avec le Créateur. Ça ressemble à s'y méprendre un redémarrage du Jardin d'Éden.
Ben, c'est exactement l'intention théologique du texte. Le mandat initial de l'humanité dans Genèse 1, c'était de se multiplier, de remplir la terre et de jouir de la bénédiction d'une relation parfaite avec Dieu.
Mandat qu'ils ont perdu.
Qu'ils ont perdu par rébellion, ouais. L'appel d'Abraham, c'est l'offre d'un nouveau commencement. La terre de Canaan vient remplacer l'Éden perdu. La promesse d'une grande nation, bah, ça fait écho au commandement de se multiplier. Et la bénédiction offerte, c'est la restauration de la proximité avec le divin.
C'est une architecture théologique magnifique. Sauf que, bah, y a une ironie flagrante dans le texte. Une ironie presque cruelle, je dirais.
Tu penses à Saraï, hein ?
Évidemment. Juste avant de déployer cette promesse majestueuse d'une nation innombrable, le rédacteur de la Genèse glisse, à la toute fin du chapitre 11, une petite phrase clinique, froide comme une lame. Il dit « Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant ».
Ouais, le détail qui tue.
Et le seul héritier masculin qui traîne dans le paysage, c'est le neveu, Lot. D'un point de vue purement narratif, c'est un non-sens absolu. Pourquoi Dieu formulerait la promesse la plus ambitieuse de l'histoire, au moment précis où, biologiquement parlant, elle est la plus impossible à réaliser.
C'est pas un non-sens narratif, en fait, c'est le cœur nucléaire du récit.
Vraiment ?
Bien sûr. Cette contradiction apparente, c'est le fondement même de ce que le texte essaie d'enseigner. En plaçant la réalité de la stérilité de Saraï en collision frontale avec la promesse de fertilité de Dieu, le texte, il neutralise toute tentative d'explication humaine.
Ah, je vois.
Si Abraham et Saraï finissent par avoir une grande nation, personne ne pourra dire que c'est grâce à leur force vitale, à la médecine ou à un coup de chance. Ce sera exclusivement, et j'insiste, exclusivement le résultat de l'intervention divine. Le texte force le personnage et le lecteur à déplacer sa confiance. On ne peut plus s'appuyer sur le naturel.
On doit s'appuyer sur la fiabilité de celui qui fait la promesse, en fait.
Exactement.
Et ce déplacement de confiance, il n'est pas juste intellectuel, il est brutalement physique. Parce que la promesse d'une terre exige une condition préalable assez dure. Il faut quitter la sienne. Abraham doit se mettre en route.
Son voyage sur la carte, c'est le miroir de son voyage spirituel.
C'est ça. Et ça, ça bouscule pas mal d'idées reçues, surtout quand on s'immerge dans le contexte historique, notamment sur l'identité d'Abraham. On a souvent cette image d'Épinal, tu sais, d'Abraham comme le premier des Hébreux.
Comme si c'était une ethnie déjà bien établie.
Voilà. Mais les historiens rappellent dans les sauces qu'il n'est pas né hébreu.
C'est une nuance cruciale. Abraham, c'est un Mésopotamien. Il vient du berceau de la civilisation antique, d'une région super urbanisée et avancée, près du Tigre et de l'Euphrate. Dans le Proche-Orient ancien, le terme apparenté à hébreu, qu'on trouve parfois sous le mot Abirou, ça désignait pas du tout une ethnie ou une religion.
C'était quoi alors ?
C'était un statut socio-économique. Ça désignait un migrant, un voyageur, un marginal qui traverse les frontières sans avoir de terre à lui.
Waouh ! C'est un déclassement social majeur, hein ? Le gars passe de citoyen d'une civilisation avancée à réfugié permanent sous une tente. Et d'ailleurs, en regardant le tracé de ce voyage, il y a un petit mystère géographique dans le texte.
Sur le point de départ ?
Oui. La Genèse mentionne d'abord qu'ils partent d'Ur, des Chaldéens, tout au sud, pour aller vers Canaan, mais ils s'arrêtent et s'installent à Charan, beaucoup plus au nord. Et c'est là, à Charan, que résonne le fameux appel du chapitre 12 « Quitte ton pays ».
C'est vrai.
Pourtant, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, on a l'impression que le discours d'Étienne situe cet appel originel en Mésopotamie, donc avant même Charan. Comment on résout cette apparente contradiction ?
Les spécialistes de la littérature biblique expliquent ça par une technique rhétorique très courante à l'époque. Ça s'appelle le télescopage.
Le télescopage. Genre l'effet d'optique où les objets lointains semblent écrasés les uns sur les autres.
C'est exactement ça. Étienne, dans le chapitre 7 des Actes, il cherche pas à faire un compte-rendu topographique précis au kilomètre près. Il fusionne deux étapes distinctes de la vie d'Abraham.
Ah, d'accord.
Il prend la première impulsion divine reçue à Ur, que la Genèse confirme plus loin au chapitre 15 d'ailleurs, et il la superpose avec l'ordre détaillé donné à Charin dans Genèse 12. L'intention de ce télescopage, elle est purement théologique.
Peu importe le code postal, en gros.
Voilà. Que ce soit Ur ou Charin, l'initiative de ce voyage ahurissant vient entièrement de Dieu, et la nature de la demande reste la même, une rupture radicale avec le passé.
Et le mot « radical », c'est presque faible quand on lit l'injonction de Genèse 12. Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je te montrerai ». Aujourd'hui, déménager dans un autre pays, c'est un défi logistique, c'est sûr. Mais on a Internet, on a des assurances, des comptes en banque.
Oui, on a un filet de sécurité.
Mais dans le Proche-Orient ancien, l'identité d'un individu et sa survie, ça dépendait entièrement de son clan. Quitter la maison de son père, c'était l'équivalent de détruire sa carte d'identité, d'annuler son assurance maladie et de partir dans un désert hostile sans GPS, juste sur la base d'une voix qui dit « Je te donnerai les coordonnées de destination en cours de route ».
C'est terrifiant.
C'est un niveau de vulnérabilité, mais total.
C'est un abandon complet des sécurités humaines. Et c'est précisément ça qui définit le cœur de la foi dans l'architecture biblique. Mais il faut être très prudent avec ce mot. La conception moderne qu'on a de la foi, elle est souvent hyper biaisée.
C'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer la foi comme un saut à l'élastique dans le brouillard, genre une croyance aveugle, irrationnelle, où on débranche son cerveau et on espère que le parachute va s'ouvrir.
Et le docteur Matthews s'oppose farouchement à cette définition. Il utilise une analogie géniale avec un vol en avion pour illustrer ce qu'est vraiment la foi biblique.
Ah oui, l'analogie de l'avion commercial, j'adore.
Matthews explique que quand on monte dans un avion, on exerce une forme de foi. On confie littéralement nos vies à une machine en métal à 10 000 mètres d'altitude, pilotée par des gens qu'on connaît même pas.
C'est clair.
Mais c'est pas une foi aveugle ou magique. C'est une confiance complètement rationnelle, basée sur la connaissance et l'expérience. Intellectuellement, on connaît les lois de l'aérodynamique, on sait que des milliers d'avions atterrissent en sécurité chaque jour.
Et personnellement, on a l'expérience de vols passés qui se sont bien passés.
Voilà. Et la foi biblique, elle opère sur ce même registre. Elle est basée sur le caractère et la fiabilité de celui qui promet.
D'accord, je comprends totalement l'analogie pour nous aujourd'hui. Mais si on se remet dans les sandales d'Abraham à Charan, lui, il avait ni manuel d'aérodynamique spirituelle, ni historique de vol de la compagnie divine. Non. Quand il fait le premier pas hors de Charan, il n'a aucune expérience préalable sur laquelle s'appuyer. C'est quand même un sacré saut dans le vide au tout début.
C'est une super observation. Le premier pas nécessitait une obéissance brute. Mais ce qui est fascinant, c'est que le texte de la Genèse ne s'arrête pas là. Les chapitres de 12 à 22 y sont décrits par les théologiens comme l'école de formation d'Abraham.
Ah, l'école de la foi!
Pendant des décennies, Dieu va se révéler progressivement. Et Abraham, il va faire des erreurs monumentales. Il va douter, il va mentir par peur en Égypte, il va essayer de forcer le destin avec sa servante Agar.
C'est pas un parcours parfait.
Non, pas du tout. Mais à chaque fois, Dieu intervient, le protège, le corrige et maintient sa promesse. C'est par ce processus d'échec et de sauvetage qu'Abraham acquiert cette fameuse expérience de la fiabilité de Dieu. Sa foi, elle grandit comme un muscle qu'on entraîne.
C'est là que ça devient vraiment, mais vraiment intéressant. Parce que cette décennie d'entraînement intensif, elle le prépare à l'examen final. On arrive aux deux grands serre-livres de la vie d'Abraham.
Les deux grands tests.
Le premier serre-livre, c'est Genèse 12, l'ordre de quitter son passé, ses racines. Et le second serre-livre, c'est le chapitre 22, le mont Moria. Dieu lui demande de prendre Isaac, l'enfant de la promesse, né miraculeusement de Sarah et dans sa vieillesse, et de l'offrir en sacrifice.
Le moment le plus glaçant.
En cœur, Dieu lui dit « Donne-moi ton futur ». Mais soyons honnêtes deux secondes, c'est un paradoxe profondément troublant. Dieu a passé des décennies à promettre une nation à travers cet enfant spécifique. Demander sa mort, c'est pas seulement cruel en apparence, c'est surtout annuler la promesse elle-même.
Bah oui.
Comment est-ce que ça brise pas instantanément toute la confiance qu'ils ont mis des années à construire?
C'est clair que c'est la tension narrative la plus insoutenable de l'Ancien Testament. Mais ce qui est fascinant ici, c'est de comprendre la vraie nature de cette épreuve. C'était pas un caprice de Dieu ou un test de cruauté, c'était une question de hiérarchie des affections.
C'est-à-dire?
Dieu pose la question la plus douloureuse qui soit à un être humain. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Est-ce que tu aimes le don ou est-ce que tu aimes le donateur?
Waouh! C'est une distinction brutale. C'est en fait la différence entre utiliser Dieu comme un simple distributeur automatique pour obtenir la bénédiction, la famille, le succès,
ouais.
et le fait de désirer une relation avec la personne qui possède le distributeur.
Précisément. Est-ce qu'Abraham avait transformé Isaac et la promesse en une idole? Si on retire le cadeau, est-ce que la confiance envers la source du cadeau reste intacte? Et c'est ici que l'analogie de l'avion prend tout son sens.
Parce qu'il savait comment le pilote fonctionnait.
Exactement. Abraham lève le couteau, non pas dans un élan de fanatisme démentiel, mais par déduction logique forgée à cette école de la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, il nous donne la clé psychologique de ce moment. Abraham a raisonné.
Il a calculé le truc.
Il s'est dit, puisque Dieu a prouvé sa loyauté pendant 25 ans, et puisqu'il a catégoriquement déclaré que la nation passerait par Isaac, alors si Isaac meurt sur cet autel, la seule issue logique, c'est que Dieu le ressuscitera des morts.
C'est absolument brillant. Il a vu Dieu triompher de la stérilité, qui est une forme de mort biologique. Du coup, il déduit que Dieu peut tout simplement annuler la mort physique. La confiance est totale.
C'est l'aboutissement de sa foi.
Mais au-delà de cette victoire intime, le texte nous indique que l'histoire d'Abraham, c'est pas juste un petit conte moral. Elle possède une architecture mathématique qui répare carrément l'univers. J'ai examiné le texte de l'appel initial dans Genèse 12, d'après les notes du docteur Matthews, et j'ai remarqué un schéma linguistique hallucinant.
Lequel ?
Dans les trois premiers versets, le mot « bénir », sous ses différentes formes, apparaît très exactement 5 fois. « Je te bénirai, tu seras une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront ». Cette insistance sur le chiffre 5, c'est pas une simple coïncidence stylistique.
Non, pas du tout. Dans la littérature hébraïque ancienne, la répétition, c'est le surligneur du texte. Ce quintuplusage de la bénédiction, c'est la réponse chirurgicale au chapitre précédent.
Comment ça, Anonso ?
Si on scrute les 11 premiers chapitres de la Genèse, de la création à Babel, on s'aperçoit que le mot « malédiction » y est prononcé très exactement 5 fois.
Ah ouais?
Ouais.
Le serpent est maudit. Le sol est maudit après la chute. Caïn est maudit après le meurtre de son frère. Le sol est à nouveau associé à la malédiction à l'époque de Noé. Et enfin, Canaan est maudit après le déluge.
5 malédictions qui ont empoisonné et fracturé le monde. Et Dieu verse l'antidote sur un seul homme, à travers 5 promesses de bénédiction. C'est une symétrie réparatrice parfaite.
C'est la mécanique de la grâce biblique. Le chaos universel, où 70 nations ont été dispersées à Babel, ça trouve son point de guérison en un seul individu. Abraham devient la tête de pont cosmique.
L'universel est sauvé par le particulier, en gros.
C'est ça. Dieu se désintéresse pas des autres nations en choisissant Abraham. Au contraire, il construit le canal par lequel la bénédiction va pouvoir refluer vers le monde entier.
Le remède devait bien commencer quelque part. Donc pour résumer, on est passé d'une vue interstellaire de la création des galaxies au désastre universel de la chute pour finalement zoomer sur un couple de retraités mésopotamiens sans enfants.
Un sacré contraste.
Des migrants qui ont dû déchirer leur filet de sécurité sociale pour apprendre, à travers une école de la vie très douloureuse, à faire confiance au Créateur plutôt qu'au cadeau qu'il offre.
Et c'est vraiment là le cœur du message pour nous aujourd'hui.
Oui, parce qu'en réfléchissant à ça, je me dis que ceux qui écoutent peuvent se poser une question assez inconfortable. À quelle fréquence on s'accroche nous aussi désespérément aux dons matériels, notre carrière, notre confort, notre idée précise de ce que notre avenir devrait être, en oubliant totalement de cultiver la confiance envers la source même de ces dons. On s'agrippe tellement fort à l'accomplissement de la promesse qu'on en perd de vue le donateur.
C'est au fond le défi perpétuel de l'expérience humaine, la tentation de confondre le véhicule de la bénédiction avec son auteur.
Pour clôturer cette exploration, j'aimerais revenir sur un dernier détail historique qui retourne complètement la perspective. Malgré cette alliance fracassante, malgré les promesses grandioses d'une terre coulant de lait et de miel, Abraham, concrètement, de son vivant, n'a jamais possédé la terre promise.
C'est vrai, à part une petite grotte.
Exactement, une petite parcelle de terrain qu'il a dû acheter au prix fort pour enterrer sa femme Sarah. Il a vécu toute sa vie dans des tentes, comme un étranger de passage, et pourtant le texte d'Hébreux 11 nous dit qu'il vivait cette situation avec une paix absolue.
Pourquoi, à ton avis, Sam ?
Parce que, et je cite, « il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur ». Abraham avait percé le code. Et je pense que ça laisse une pensée extrêmement provocatrice pour conclure.
Laquelle ?
Et si les promesses qu'on cherche si frénétiquement à voir s'accomplir de manière tangible, immédiate et matérielle dans notre monde physique, n'étaient en réalité que des ombres ? Et si c'était que de simples panneaux indicateurs, tu sais, plantés dans le sable, qui pointent vers une réalité spirituelle infiniment plus vaste et qui dépasse très largement les limites de notre courte existence.